بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue ce qu'on avait entamé hier sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prochain nom que nous allons expliquer, c'est le nom Al-Afu, de même que Al-Ghafur, Al-Ghaffar et Al-Tawwab. Donc ce sont quatre noms. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Tawwab. Donc on trouve par exemple dans la parole d'Allah, فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا. Cela, il se peut qu'Allah leur pardonne, يَعْفُوَ عَنْهُمْ, c'est-à-dire qu'il leur efface leur péché, et Allah est عَفُوًا عَفُوًا غَفُورًا. Et l'autre verset qui dit, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Où Allah dit, je suis غَفَّار, c'est-à-dire très pardonneur, pour celui qui se repent, qui croit et qui fait des bonnes actions, puis qui emprunte la voie droite. Et le verset qui dit « Wa ana at-tawwab ar-rahim » où on trouve son nom « At-tawwab ». Donc « Al-afu » signifie, donc le sens de ces « de Al-afu »,« Al-ghafu » et « Al-ghaffar » sont semblables. On peut les traduire par le pardonneur. Si ce n'est que « Al-afu » et « Al-ghafu », la différence entre les deux, c'est que « Al-afu » c'est celui qui efface les péchés, et Al-Ghafur c'est celui qui cache les péchés. Mais la fin, c'est-à-dire le résultat, il est le même. C'est dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Al-Ghafur et Al-Ghaffar ont le même sens. Et At-Tawwab, At-Tawwab a deux sens. C'est celui qui mène et qui permet à son serviteur de se repentir. يعني يوفق عبده للتوبة. Il guide et il permet à son serviteur de se repentir. Et le deuxième sens, c'est dans le sens où il accepte cette tauba, يقبل التوبة. Donc il guide son serviteur pour qu'il se repente. Ensuite, il accepte son repentir. Ça, c'est les deux sens du nom التواب. Donc التواب, il n'y a pas un mot pour le traduire. Il faut l'expliquer. On ne peut pas vraiment le traduire par un mot. Donc dans ce sens, il y a beaucoup de hadiths et de versets. Par exemple, le hadith qui dit que يعني ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. Personne n'est plus patient pour une nuisance qu'il entend qu'Allah. C'est-à-dire personne ne patiente plus qu'Allah pour des choses qu'on dit sur lui, des choses mauvaises qu'on dit sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué par le fait que des gens prétendent qu'Allah a un enfant, mais lui continue de leur donner la santé et de leur donner leur risque, c'est-à-dire leur nourriture, leur boisson, etc. Donc Allah pardonne, c'est-à-dire qu'il laisse passer les fautes. Bien sûr, on sait qu'au jour du jugement, il ne pardonnera pas à ce genre de personnes. Mais ici-bas, Allah les laisse vivre et patient sur leur nuisance, alors qu'eux l'insultent et mécroient en lui, subhanahu wa ta'ala. Également, il y a le verset qui dit « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. » Dit « Ô mes serviteurs qui avaient abusé envers vos propres personnes, c'est-à-dire qui avaient commis trop de fautes et trop d'excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Donc ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de pardonner. Et si Allah azza wa jalla parmi ses attributs il y a le fait de pardonner, alors il faut bien qu'il y ait une créature à qui pardonner. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les êtres humains et les djinns qui commettront des fautes pour leur pardonner, pour ceux d'entre eux qui reviennent vers lui. Donc Allah azza wa jalla, ça fait partie de ses qualités subhanahu wa ta'ala et de ses caractéristiques, le fait qu'il pardonne et qu'il aime pardonner, et il a créé une créature qui commet des péchés pour notamment lui pardonner et pour qu'il revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si les gens ne commettaient pas de péché, Allah aurait créé d'autres créatures qui commettraient des péchés pour leur pardonner. Parce que ça fait partie de ses qualités et de ses attributs. Également, il y a le verset, ou plutôt le hadith Qudsi, où Allah Azza wa Jalla dit « Yabna Adam, innaka ma da'outani wa rajoutani, ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Yabna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. الله أكبر. Donc ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô fils de Adam, c'est-à-dire ô l'être humain, si tu m'invoquais et si tu espères en moi, je te pardonne ce que tu as pu faire, et je n'en prends la oubaï, c'est-à-dire je ne m'en soucie pas, je n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le ciel, puis qu'ensuite tu venais me demander pardon, je te pardonnerai et je n'en tiendrai pas compte. Ô fils de Adam, si tu venais vers moi avec l'équivalent de la terre en péché, puis que tu ne m'associes rien, je viendrai vers toi avec l'équivalent en pardon. C'est-à-dire autant de péchés seraient rendu ou serait confronté entre guillemets par autant de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de al-muqtada, c'est-à-dire ce qu'implique le nom d'Allah, al-Ghafur, al-Ghaffar et al-Afu et al-Tawwab. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait beaucoup l'istighfar, il demandait beaucoup le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il disait lui-même qu'il se repentait 70 fois par jour et qu'il revenait à Allah et lui demandait pardon 70 fois par jour. Donc ça, c'est notamment parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime de ses serviteurs, puisque de toute façon ils commettront des fautes et des péchés, Allah aime qu'ils reviennent vers lui pour leur pardonner, car il aime le pardon subhanahu wa ta'ala. Également, vous connaissez le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'Allahu ashaddu farahan, c'est-à-dire Allah a plus de bonheur, a plus de joie pour son serviteur lorsqu'il revient vers lui en se repentant que l'un d'entre vous qui avait perdu son chameau dans le désert alors que son chameau portait toutes ses provisions, puis qui s'est allongé sous un arbre avec désespoir, il désespère de retrouver son chameau, et puis soudain le chameau est devant lui avec ses provisions, etc. Donc cet homme, dans cette parabole, cet homme était face à la mort et soudain il retrouve son chameau. Donc de nouveau il retrouve l'espoir, il retrouve la vie. Comment sera son bonheur à ce genre d'individu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a plus de bonheur et de joie que cet individu, que ce genre de personne. Pour celui, c'est-à-dire qu'Allah a cette joie envers son serviteur lorsqu'il se repent vers lui et qu'il revient vers lui, subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on connaît ce nom, bien sûr, c'est assez simple à comprendre. Qu'est-ce que cette connaissance va entraîner chez lui? Eh bien, c'est justement le fait de multiplier al-istighfar, multiplier la demande de pardon envers Allah, multiplier le repentir et surtout ne jamais désespérer, quoi qu'on ait pu commettre. Quoi qu'on ait pu commettre, il ne faut jamais désespérer, car on sait qu'Allah Azza wa Jal s'appelle al-Afu, al-Ghafur, al-Ghaffar, al-Tawwab. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aliyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Al-Ali, c'est-à-dire celui qui est haut. Al-A'la, celui qui est le plus haut. Al-Muta'al, également c'est comme Al-Ali, celui qui est élevé. Donc tous ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala désignent un même attribut. Quel est-il à votre avis? La hauteur, l'élévation. On dit en arabe, comment on dit en arabe? Al-Ulu. Donc Al-Ulu fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont compris, qu'on comprend à travers ces noms-là. Al-Ali, qui est beaucoup répété dans le Coran, comme dans Ayat al-Kursi par exemple, wa huwa al-Ali al-Azim. Al-A'la, comme dans Sabbih isma rabbika al-A'la. Et Al-Muta'al également, qu'on retrouve dans le Coran. Donc tous ces noms désignent une qualité d'Allah qui est Al-Ulu, qui veut dire l'élévation ou la hauteur. Donc cette hauteur dont on parle ici, c'est dans trois choses. En fait, c'est la hauteur dans tous les sens du terme. et c'est l'élévation dans tous les sens du terme. Premièrement, ulu-zat, c'est-à-dire qu'il est élevé par lui-même. C'est une élévation entre guillemets physique, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de sa création. Et Allah Azza wa Jal nous en a informé dans beaucoup de versets du Coran, notamment dans les 7 versets où il nous a dit qu'il s'était élevé sur son trône. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, thumma istawa ala al-Arsh ar-Rahman. Et beaucoup d'autres versets où Allah nous dit qu'il est fis-sama, qu'il est au ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux, qu'il est établi et élevé sur son trône, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. Ou les versets où il nous dit que les œuvres montent vers lui, subhanahu wa ta'ala, où il nous dit que les anges et que la révélation descendent de chez lui. Donc s'ils descendent de chez lui, c'est qu'il est bien en haut, subhanahu wa ta'ala. Également, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors du voyage nocturne, al-mi'raj, est monté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il est monté vers Allah, c'est bel et bien qu'Allah azza wa jal est au-dessus. Donc tout ça, ce sont des preuves très multiples, très nombreuses et indiscutables sur le fait qu'Allah azza wa jal est au-dessus de sa création. Et c'est également un ijma' des salafs. C'est-à-dire c'est une question qui ne faisait pas de divergence entre les sahaba, ni entre les tabi'in et entre tous les ulama al-sunnati wal-jama'a. Et à ce sujet, Abu Nasr al-Sijzi, un savant qui a écrit dans l'Aqidah un livre qui s'appelle Al-Ibana, disait, rahimahullah, « وَأَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانِ الثَّوْرِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسِ وَسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضِ وَأَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِذَاتِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّ عِلْمَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ. Donc cet imam disait, rahimahullah ta'ala, nos imams, c'est-à-dire les grands savants de cette communauté, comme Soufiane al-Thawri, Malik ibn Anas, Soufiane ibn Uyayna, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, Abdullah ibn Mubarak, Al-Fudayl ibn Iyad, Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahaway, étaient tous d'accord pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, donc bizatihi, c'est-à-dire lui-même, est au-dessus du trône, mais que sa science est dans tout endroit. C'est-à-dire que sa science sert tout endroit, mais que lui-même est au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on comprend de son nom, Al-Ali, et également Al-Ali. Donc ça, c'est la aqidah des musulmans, avant que la pensée des musulmans ne vienne être polluée par la spéculation, la philosophie, et les influences grecques, les influences perses, les influences asiatiques, qui ont rentré dans la communauté musulmane les idées qu'Allah Azza wa Jal en lui-même est partout, ou qu'Allah Azza wa Jal est mélangé à sa création et peut ne faire qu'un avec sa création, ou carrément le fait que tout ce que l'on voit n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont des idées étrangères à l'islam et contraires à l'unanimité des premiers musulmans. Al-Ulu est également de deux autres sortes. C'est Ulu al-Qahr, la hauteur dans le sens de la suprématie sur ses créatures. Et là, on en revient à un autre nom qui est Al-Qahr, le fait qu'Allah Azza wa Jalla domine et a la suprématie sur ses créatures qui sont soumises à lui, subhanahu wa ta'ala, et qui ne peuvent rien face à sa puissance et face à son décret. Et également ulu al-sifat ou ulu al-qadr, la hauteur dans les attributs, la hauteur dans ses caractéristiques. C'est-à-dire que dans toutes ses qualités, Allah Azza wa Jal est élevé. Il a le plus haut point dans la générosité, dans la splendeur, dans la grandeur, et beaucoup de choses qu'on avait expliquées dans les noms précédents qu'on avait expliqués hier. Donc al-ulu est de trois sortes. Ulu al-zat, la hauteur par lui-même, c'est-à-dire que lui-même est élevé, subhanahu wa ta'ala, et est au-dessus de sa création. Ulu al-qahr, c'est-à-dire qu'il est au-dessus d'eux, deuxièmement, dans le sens où il a la suprématie sur eux. Et ulu al-qadr, ou ulu al-sifat, c'est-à-dire qu'il est haut et élevé dans ses sifat, et personne ne lui est égal dans ses qualités et ses attributs. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafir et Al-Hafir, qui veulent dire plus ou moins le gardien, entre guillemets. Donc ces deux noms ont plusieurs sens. Al-Hafir et Al-Hafir désignent Al-Hifz de la part d'Allah. Et Al-Hifz peut avoir plusieurs sens. Donc ce sont des noms qu'on retrouve par exemple dans le verset Inna Rabbi ala kulli shay'in hafir. Et le verset qui dit Fallahu khayrun hafidha wa huwa arhamur rahim. Donc Al-Hifz de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala peut vouloir dire Al-Hifzu bi'ilmihi, c'est-à-dire le fait que par sa science il retient toute chose. C'est comme quand on dit d'un être humain Yahfazu al-Qur'an, par exemple, il retient le Coran. Eh bien Allah Azza wa Jal Yahfazu kulla shay. Allah Azza wa Jal connaît toute chose et n'oublie rien, subhanahu wa ta'ala. La yadhillu Rabbi wa la yansa. La science d'Allah Azza wa Jal est globale. Rien ne lui échappe, aucune chose grande comme aucune chose petite, et également elle n'est pas sujette à l'oubli. Donc dans ce sens, Allah est hafid, dans le sens où il retient toutes les œuvres des êtres humains et tous les événements. Et également il a mis à cela des asbab dans sa création, et il a créé des anges pour noter les œuvres des êtres humains dans des registres qui seront déployés et distribués au jour du jugement. Ça fait partie de son hifz, le fait qu'il garde, c'est-à-dire il garde inscrit les œuvres des êtres humains, subhanahu wa ta'ala. Également, il y a le hifz dans le sens où il préserve sa création, et c'est par lui que sa création subsiste et perdure. Comme quand, dans le verset qui dit, dans Ayat al-Kursi, « وَلَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا » Allah, en parlant des cieux et de la terre, dit « لَا يَعُدُهُ حِفْظُهُمَا » C'est-à-dire le fait de les préserver, de les garder, ne le fatigue pas. Ici, les garder, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de les faire perdurer. Et effectivement, toute chose dans la création ne perdure que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et les fait perdurer. Ça, c'est un des sens du hifz d'Allah Azza wa Jal. Également, il y a le hifz, comme on retrouve dans le verset qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les hafidhun, c'est-à-dire ici, entre guillemets, les gardiens ou ceux qui le préservent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa parole contre la manipulation des êtres humains, contre le fait qu'ils disparaissent de la terre, et a fait Azza wa Jal que son Coran, que sa parole a été préservée, inchangée, et que les gens n'ont pas pu le modifier, et qu'il est toujours présent après 1400 ans. Ça fait partie de son hibb, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un pourrait me passer un verre d'eau, barakallahu fikoum. Également le hibb d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le sens où il préserve et protège ses créatures contre les choses qu'il redoute et contre les choses qu'il craint. Donc là, c'est dans le sens de la protection. Et cette protection d'Allah Azza wa Jal est une protection générale, car effectivement Allah protège toutes ses créatures, quelles qu'elles soient, et même les mécréants. Allah Azza wa Jal les protège. Et à ce sujet, un verset du Coran dit لَهُ مُعَقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Ça parle de l'être humain. L'être humain a des alternants, c'est-à-dire des anges qui s'alternent de devant et de derrière lui et qui le protègent par l'ordre d'Allah, sur l'ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a mis à tout être humain ce qu'on appelle en français les anges gardiens, entre guillemets. C'est-à-dire des anges qui le protègent, qui l'entourent et qui le protègent contre le mal. Et quand Allah veut qu'un mal touche cette personne, les anges s'écartent et laissent le mal toucher cette personne, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Donc c'est un hifz d'Allah Azza wa Jal qui englobe tous les êtres humains et toute la créature, toute la création, pardon. Ensuite, il y a un autre hifz qui est plus particulier et qui est pour les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. comme dans le verset qui dit « Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu » Certes, Allah protège, repousse le mal de ceux qui ont la foi. Donc ça, c'est une protection en plus que celle qui est pour tout le monde. C'est qu'Allah Azza wa Jal non seulement les protège dans leur corps et les protège comme il protège tous les êtres humains, mais également Allah Azza wa Jal les protège dans leur foi. Il les protège contre l'égarement, contre la mécréance, contre le shirk, contre les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés, contre les bid'ah, c'est-à-dire les innovations religieuses, etc. Ça, ça fait partie du hifz d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça également qu'on comprend le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas « Ihfazillaha yahfazk » Préserve Allah, il te préservera. C'est-à-dire préserve les obligations d'Allah, accomplis les obligations d'Allah, la salat, le jeûne, etc. Et Allah yahfazka, Allah te préservera. C'est-à-dire qu'il te protégera du mal que tu redoutes, que ce soit le mal physique et les malheurs, ou que ce soit également le mal qui pourrait toucher à ta foi et à ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wa al-akhirah. C'est-à-dire, oh Allah, je te demande la préservation ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Oh Allah, je te demande le pardon et la protection dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas, dans ma famille et dans mes biens. Allahumma ustur awrati wa amin rawati. Oh Allah, cache mon intimité, c'est-à-dire mes secrets, et rassure mes peurs. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi 'izamatika an uqtala min tahti. Et il dit à la fin, oh Allah, préserve-moi, ihfazni. Donc il invoque Allah par ce qui ressort du nom Al-Hafiz et Al-Hafiz. Il dit ihfazni, c'est-à-dire préserve-moi de devant, de derrière, de ma droite et de ma gauche. Donc on voit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah par cet attribut qui est Al-Hifz, en lui disant ihfazni, en lui demandant la protection. Donc qu'est-ce que ce nom va avoir comme effet chez le musulman? Eh bien c'est que le musulman, justement, pour être protégé de tout ce qu'il redoute, se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a toujours en tête Allahu khayrul hafiza. Allah est le meilleur gardien et est le meilleur protecteur. Ce qui fait que le muslim place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, prend Allah comme gardien azza wa jal, et se détache des créatures et détache son cœur des créatures. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, quatre noms qu'on retrouve au début de sourate Al-Hadid, Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Al-Awwal qui veut dire le premier, Al-Akhir qui veut dire le dernier, Al-Zahir qui est dur à traduire, et Al-Batin qui est encore plus dur à traduire. Alors je vais les laisser comme ça, on va les expliquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a donné le tafsir de ces quatre noms. Car avant de dormir, il disait sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma rabb as-samawat wa rabb al-ard wa rabb al-arsh al-azim, Rabbana wa rabb kulli shay, munzilat faliq al-habbi wal-nawa, munzilat tawrat wal-injil wal-furqan, a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi. C'est-à-dire, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, oh Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du grand trône, notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses, celui qui fend la graine et le noyau, celui qui a fait descendre. Donc ici, il y a une allusion à la vie physique. Celui qui fend la graine et le noyau par laquelle les gens mangent. Et ensuite, il dit, celui qui a, toi qui a fait descendre la Torah, l'évangile et le Furqan, c'est-à-dire ici le Coran. Donc ça, c'est une allusion à la vie spirituelle, la vie des cœurs. Il dit, je te demande protection, c'est-à-dire je me réfugie auprès de toi contre le mal de toute chose que tu tiens par le toupé qui est le devant de la tête. Et il dit ensuite, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay. Oh Allah, tu es le premier, rien n'est avant toi. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. Tu es le dernier, rien n'est après toi. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. Tu es الظاهر, rien n'est au-dessus de toi. De là, on comprend ce que veut dire الظاهر. C'est celui qui est au-dessus, qui domine sa créature et qui est au-dessus d'elle. Ça ressemble notamment au nom Al-Ali. Et il dit وأنت الباطن فليس دونك شيء. Tu es الباطن, rien n'est plus proche que toi. ليس دونك شيء, c'est-à-dire rien n'est entre toi et la créature. اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر. Enlève-nous notre dette, c'est-à-dire acquitte-nous de notre dette et enrichis-nous contre la pauvreté. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ces quatre noms en disant tu es al-awwal, rien n'est avant toi. Tu es le dernier, al-akhir, rien n'est après toi. Donc al-awwal et al-akhir nous désigne ce qu'on appelle al-ihafatu al-zamaniya, c'est-à-dire la globalité entre guillemets dans le temps, le fait qu'Allah Azza wa Jalla encercle ses créatures dans le temps puisqu'il est le premier et il est le dernier. Et al-zahir wal-batin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu es al-zahir, rien n'est au-dessus de toi, tu es al-batin, rien n'est plus proche que toi. Ça c'est al-ihata al-makaniya, c'est-à-dire qu'il les encercle dans l'espace. Donc le premier parle du temps et le deuxième parle de l'espace. Donc le fait qu'Allah, donc ces quatre noms montrent al-ihata. Al-ihata qui est un peu difficile à traduire, qui veut dire le fait qu'Allah Azza wa Jal encercle ses serviteurs et que eux ne peuvent pas le cerner. Il cerne ses serviteurs dans l'espace comme dans le temps. Donc Allah Azza wa Jal est le premier. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah était et rien n'était avec lui. Donc Allah Azza wa Jal est éternel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de début, contrairement à toutes ses créatures. Et il est al-akhir, comme Allah nous a dit, « وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » La face de ton Seigneur restera. Lorsqu'Allah fera tout disparaître, à l'exception de certaines de ses créatures, ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand les gens du paradis seront au paradis pour l'éternité, et que les gens de l'enfer seront en enfer pour l'éternité, Allah est bel et bien al-akhir. Parce que c'est par lui que ceux-là vont perdurer et vont exister. Donc Allah est bel et bien al-akhir, qui n'a pas de fin, subhanahu wa ta'ala. Et Allah est al-zahir, c'est-à-dire celui qui est au-dessus de toute la création. Et rien n'est au-dessus de lui, ni dans l'espace, ni dans sa suprématie, et ni dans ses qualités. Rien n'est au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également il a dit wa laysa dunaka shay, rien n'est plus proche qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah nous l'a dit wa laqad khalaqna insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons de baisser la voix dans leur zikr, car il disait Allah est plus proche de vous que la monture de l'un d'entre vous. Cette proximité, elle est, puisqu'on a bien dit qu'Allah azza wa jalla est au-dessus des sept cieux, elle est par la science, comme l'expliquaient les salafs. C'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla est au-dessus des sept cieux, mais par sa science, il est proche de toutes ses créatures, et rien n'est plus proche que lui. Donc son nom al-batin signifie qu'il est proche de ses créatures. Rien n'est plus proche qu'Allah de ses créatures. Proche par sa science, par le fait qu'il les encercle, et que rien de leurs pensées, de leurs paroles n'échappe à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de ant al-batin falaysa dunaka shay. Tu es al-batin, rien n'est dunaka, c'est-à-dire rien n'est en dessous de toi ou rien n'est plus proche que toi. Donc l'être humain pourrait se sauver où il voudrait, il serait toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah serait toujours avec lui. Et Allah le cernerait toujours par sa science et par son regard subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr on pourrait parler longtemps de tout ce qu'entraînent ces quatre noms, comme le fait qu'Allah azza wa jalla est le premier, ça montre que dans ton entreprise, tu sais qu'Allah azza wa jalla a déjà destiné tout ce que tu vas faire. Et tu dois mettre Allah Azza wa Jalla au début de ton entreprise. C'est-à-dire que tu places ta confiance en lui et tu fais salat al-istikhara et tu te tournes vers Allah pour commencer ton entreprise. Et tu sais que c'est lui l'akhir. C'est-à-dire que la fin de ton entreprise, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est entre ses mains qu'est la continuité et la conclusion de ton projet, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu fais d'Allah l'akhir dans le sens également où tu fais que ce projet, cette entreprise, ton but par cela est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Que ce soit quelque chose que tu retrouves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'on peut retirer notamment de ces quatre noms. Également, ces quatre noms, on peut les dire pour éviter le waswas. Lorsque l'être humain est touché par ce qu'on appelle al-khatarat, c'est-à-dire les pensées qui traversent son esprit et qui sont du domaine du kufr et du shirk, eh bien, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, nous a donné un médicament à partir du Coran qui est le verset « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » Donc le fait de réciter ce verset lorsqu'on a de ce genre de suggestions, de mécréances, de doutes, etc., eh bien il faut réciter ce verset. Quand un homme s'est plaint à Abdullah ibn Abbas des pensées qu'il avait, et Abdullah ibn Abbas lui a dit « qu'est-ce que tu penses ?» Il a dit « je ne veux pas te le dire ». Abdullah ibn Abbas a ri et il a dit « tout le monde est touché par ça ». Personne n'est épargné de ces choses-là, mais il faut dire « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ». C'est-à-dire le troisième verset de la sourate Al-Hadid. Le nom suivant, ou plutôt les deux noms suivants, c'est Al-Hakim et Al-Hakam. Al-Hakim, qui peut vouloir dire le juge ou le sage, et Al-Hakam, qui veut dire le juge. Donc ces deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala montrent deux choses. Kamal al-Hukm et Kamal al-Hikmah. C'est-à-dire la perfection du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces noms, on les retrouve dans beaucoup de versets. Alaysa Allah bi ahkam al-hakimin, afaghayra Allah abtaghi hakaman. Donc en fait ces noms, qu'est-ce qu'on va en retirer? Premièrement, quand on parle de Kamal al-Hukm, donc il y a deux attributs dans ces deux noms, al-Hakim et al-Hakam. C'est le premier, c'est al-Hukm, qui veut dire le jugement, et le deuxième c'est al-Hikma, qu'on peut traduire par entre guillemets la sagesse. Donc al-Hukm, le jugement, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son jugement est parfait. Et le jugement d'Allah azza wa jalla est de deux sortes. Et quand on va expliquer les deux sortes du jugement d'Allah, on va comprendre quel va être l'impact de ces deux noms dans la vie du musulman. Premièrement, il y a al-hukm al-kawni, le jugement universel, c'est-à-dire les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Pour comprendre de façon plus simple, on va dire le destin. Le destin, c'est le jugement d'Allah. Allah a jugé qu'il se passerait telle et telle chose. Donc celui qui sait qu'Allah s'appelle Al-Hakam et que son jugement dans sa création est parfait, celui-là n'aura pas de difficulté à accepter tout ce qui se passe dans, autour de lui. Qu'il le comprenne ou qu'il ne le comprenne pas. Il sait qu'Allah Azza wa Jal a Kamal al-Hukm, le jugement parfait dans sa création, et donc il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment les malheurs qui vont le toucher, il va les accepter. Parce qu'il sait que le jugement parfait est à Allah. Et le deuxième genre de jugement, c'est al-hukm shar'i, le jugement religieux. Et, c'est-à-dire, les lois qu'Allah Azza wa Jal nous a révélées. Que ce soit les lois religieuses, comme les adorations, ou que ce soit les lois qui concernent al-dunya, comme les lois par lesquelles gouverner, les lois par lesquelles faire du commerce, par lesquelles gérer le mariage, etc. Donc on croit également que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfaites. Ces lois religieuses, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a légiféré, le licite, l'illicite, etc. Et c'est dans ce sens qu'Allah dit « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » Est-ce qu'il recherche le jugement de la jahiliya et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude? C'est-à-dire que les lois sont de deux sortes. Hukmullah, La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui sait qu'Allah s'appelle Al-Hakam et Al-Hakim va accepter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant la vérité et comme étant valable pour tous les êtres humains et toutes les époques. Et il va les mettre également en application et les prendre comme référence. Les deuxièmes genres de lois, c'est Hukm al-Jahiliya, les lois dignes de l'époque d'avant l'islam. Donc Allah nous dit, est-ce que vous voulez les lois d'avant l'islam? Et qui est meilleur qu'Allah dans ces lois? Pour quelqu'un, pour des gens qui ont la certitude. C'est-à-dire que si vous vous prétendez croyant, alors vous êtes censé accepter et préférer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quel impact est-ce que ce nom va avoir dans la foi et la pratique du croyant? C'est que le croyant va accepter le jugement universel d'Allah, il va accepter le destin d'Allah, et il va accepter le jugement religieux d'Allah. C'est-à-dire que lorsqu'il découvre la loi d'Allah dans le Coran, ou à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à travers l'unanimité des savants, il l'accepte. Que cela soit conforme à sa passion, à ses traditions, ou que ce ne soit pas conforme, il va l'accepter. Car il sait que c'est le hukm d'Allah qui est le meilleur. Et également, ces deux noms montrent l'autre attribut qui est Al-Hikmah. Al-Hikmah qui veut dire le fait de mettre chaque chose à sa place. Donc le croyant croit qu'à la fois dans ses lois universelles, dans son destin, et dans ses lois à appliquer, donc les lois entre guillemets religieuses, Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans le Coran, wa lillahi al-hikmatu al-baligha, il a l'extrême sagesse, que ce soit dans le destin qu'il destine, ou que ce soit dans les lois qu'il nous a légiférées et révélées. Et donc à partir de là, le musulman va accepter facilement ce qu'Allah Azza wa Jal destine et ce qu'Allah lui a légiféré. S'il comprend la hikmah qu'il y a dedans, qu'il y a dans le fait qu'Allah a destiné telle ou telle chose, ou légiféré telle ou telle chose, alors ça va l'aider. Et c'est un plus. Mais s'il ne comprend pas la sagesse qu'il y a derrière, il l'accepte quand même. Et il soumet sa raison au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son destin, car il sait que Allah azza wa jalla, parmi ses attributs, il y a al-hikmah. C'est-à-dire qu'Allah fait toute chose pour une raison qui est sage, qu'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, également pour al-hakam, on peut mentionner que l'histoire de Abu Shuraih, un sahabi, qui s'appelait, que les gens appelaient Abu al-Hakam. Sa kunya c'était Abu al-Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé pourquoi il s'appelait comme ça. Il disait que c'est parce que son peuple le prenait comme juge lorsqu'il y avait des différends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait changer sa kunya pour Abu Shuraih, parce que son fils le plus grand s'appelait Shuraih. Donc il a refusé que quelqu'un se surnomme Abu al-Hakam. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve As-Salam. As-Salam, dont les gens aiment bien parler en disant la paix, etc. Alors que As-Salam, ça ne veut pas dire la paix. As-Salam, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Donc ce nom, on le retrouve dans Surat Al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu al-malik al-quddus As-Salam. Ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-Salam, en fait, ça veut dire As-Salim, celui qui est saint, celui qui est exempt de tout défaut, exempt de tout égal, exempt de tout associé, exempt du sommeil, exempt de la maladie, etc., etc. Voilà ce que veut dire As-Salam, c'est-à-dire As-Salim. Donc Allah Azza wa Jal est saint de tout défaut, saint de tout manquement, saint de toute maladie, saint d'avoir un égal ou un associé, etc. Voilà ce que veut dire le nom d'Allah As-Salam. Et ce nom d'Allah As-Salam, tu peux l'appliquer et le comprendre dans tous les attributs d'Allah. Dans chacun de ses attributs, Allah est salam. C'est-à-dire qu'il n'a pas de manquement et de défaut dans cet attribut. Et également dans tous les actes d'Allah. Dans tous ses actes, Allah est salam. C'est-à-dire qu'il est saint et exempt de toute distraction dans ses actes, de tout manquement dans ses actes, de tout abath, c'est-à-dire de faire des choses insensées dans ses actes. Voilà le sens du nom As-Salam. Et Allah a appelé le paradis Darus Salam, la demeure de As-Salam. Pourquoi? Parce que les musulmans, lorsqu'ils y entreront, seront saints et mis. Ils seront saints de la mort, saints du sommeil, saints de la maladie, de la fatigue, etc., etc. Et de tout ce qui pouvait les toucher comme malheur sur la terre. Donc ça s'appelle Dar al-Salam. Et le salut de l'islam, c'est As-salamu alaykum. Donc maintenant, on peut comprendre ce que veut dire As-salam. As-salamu alaykum peut vouloir dire deux choses. Soit ça désigne le nom d'Allah, As-salam, et cette explication, elle est renforcée par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses besoins. Quelqu'un est passé et lui a dit As-salamu alaykum. Le prophète n'a pas répondu. Ensuite, il a fait le tayammum et seulement après, il lui a répondu Wa alayka as-salam. Et il lui a dit Karihtu an afkur Allah illa ala tahur. J'ai détesté mentionner Allah sans être en état de purification. Donc on peut comprendre que quand on dit As-salamu alaykum, c'est bel et bien le nom d'Allah dont on parle. C'est comme si on disait Allahu alaykum. C'est-à-dire qu'Allah soit sur vous dans le sens qu'il soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vous préserve, etc. Ou alors ça peut vouloir dire As-salam dans le sens As-salama, c'est-à-dire que la préservation, la protection soit avec vous. Donc les deux sens, ils sont assez proches. Donc lorsqu'on dit assalamu alaikum, on souhaite à la personne d'être préservée, d'être protégée. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala également, on trouve Ash-Shakur et Ash-Shakir, qu'on retrouve dans le verset par exemple Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurun shakur. La louange est à Allah qui a fait partir de nous la tristesse, certes Allah est pardonneur et reconnaissant. Shakur, c'est-à-dire reconnaissant. Et le verset également qui dit Wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun 'alim. Celui qui veut faire un bien, c'est-à-dire en plus, surérogatoire entre guillemets, eh bien Allah est reconnaissant et savant. Shakirun 'alim. Donc ça, ce sont deux noms d'Allah, Shakir et Shakur, qui expriment un même attribut ou un même acte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ash-Shukr, le fait d'être reconnaissant. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est Shakur. Il est Shakur et il aime Shakirin. Allah est Shakur et il aime que son serviteur également soit Shakur ou soit Shakir, c'est-à-dire qu'il soit reconnaissant. Allah azawajal, c'est lui qui ordonne à ses serviteurs des ordres, qui leur donne des devoirs et leur interdit des choses, alors qu'il n'a pas besoin d'eux, alors que leur obéissance ne lui sert à rien, subhanahu wa ta'ala. Leur obéissance ne rajoute rien à sa splendeur et à sa richesse et à son royaume. Et pourtant, lorsqu'ils lui obéissent, il les récompense par des récompenses surmultipliées, qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Ça montre qu'Allah est Shakur. Pour des petits actes, Allah Azza wa Jal te remercie par des grandes récompenses. Ça, c'est le shukr d'Allah Azza wa Jal. Et tu en comprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait perdre aucune action. Contrairement à l'être humain. L'être humain, tu peux lui faire du bien, mais il va te remercier pour certaines choses et il va oublier beaucoup de choses. Alors qu'Allah Azza wa Jal est shakur, est reconnaissant et récompense son serviteur dans tout. Toutes les œuvres, quelles qu'elles soient, même les plus minimes. Donc voilà à peu près pour certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a pu voir de façon rapide. Donc j'espère que ça aura été profitable. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.